te, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenir, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a un petit métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment, monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégoire, chaque semaine sur l'École des Garrigues de Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et Radio Primitive sur Reims, c'est Grégoire, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, et bien comme vous vous en doutez un peu, on va faire un peu la suite de ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes depuis une semaine. Notre envoyé spécial est de retour, donc il va pouvoir un peu nous expliquer ce qui s'est passé depuis lundi soir, où on l'avait eu au téléphone et où il était en occupation dans le Rosier, qui depuis malheureusement
a été détruit dans l'après-midi du jeudi vers 17h après un grand nombre de bastons autour et malgré une résistance acharnée de la part de ses occupants et puis des paysans qui étaient avec eux, les travaux de destruction ont commencé vers 17h et ont été achevés assez rapidement puisque vers 22h déjà il y avait plus grand chose. Bon, alors c'est vrai que c'est vachement triste parce que c'est quand même une maison qui était symbolique, et puis c'était la première maison qui avait été occupée, comme on avait dit la semaine dernière, hein. C'était vraiment quelque part un des symboles et un des épicentres de la lutte, mais on peut pas quand même s'arrêter là-dessus pour faire le bilan de la semaine,
parce que
là on est lundi combien, je sais plus,
26,
mais bon, il s'est passé des choses pendant le week-end et voilà, on a gagné, alors on a gagné, pas sûr, en tous les cas on a déjà gagné un petit quelque chose, quoi, parce que selon moi, mes informations que j'ai, la situation là-haut, il y a encore des bagarres, mais c'est vachement plus calme que hier.
Il y a encore des bagarres autour de barricades, en particulier de 40 tracteurs qui bloqueraient la Châtaigneraie.
C'est ça. Alors, les barricades ont été enlevées au cours de la semaine et elles ont été reconstruites, refaites, etc. Mais hier matin, il y a eu des paysans qui sont venus au lieu dit la Châtaigneraie, là où il y a les équipements collectifs et les constructions collectives qui ont été faites et qui ont bloqué le petit chemin qui mène à ces constructions. Et ce matin, c'est 40 tracteurs qui sont arrivés en renfort pour pouvoir bloquer ça. Tracteurs qui sont enchaînés les uns les autres, pardon. Il y a eu également une conférence de presse faite depuis ce lieu qui a affirmé sa détermination et sa volonté à reconstruire et qui a réagi aux annonces faites par le gouvernement Hérault, dont on pourra parler dans quelques instants.
Oui, bien sûr.
Et puis de toute façon le représentant des paysans là, qui est membre de la Confédération paysanne, a dit que si les tracteurs étaient virés, il y en avait 400 qui pouvaient venir qui étaient mobilisables, donc ce qu'on disait la semaine dernière, que l'engagement des paysans et plus particulièrement ceux de la Confédération paysanne qui était un point important de la lutte, eh ben ils ont répondu positivement, à savoir que selon les informations que j'ai, les paysans ont très très mal pris le fait, et c'est normal, hein, que les flics, hein, les gendarmes, pas pareil, mais bon, les gendarmes aient coupé les valves des pneus des tracteurs, hein, pour pas justement qu'ils puissent les rebouger, etc., etc., et s'en emparer. Donc ils ont coupé les valves, ouais. Les pneus ont été dégonflés, et après ils les ont tractés avec les machines et les camions qu'ils avaient, quoi. Et en plus, d'après ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas eu la possibilité de négocier pour virer des affaires qui étaient à l'intérieur de la châtaigneraie, quoi. Donc voilà. Donc ce week-end, il y a eu des annonces de fêtes, quand même. Il y a eu, si j'ai bien compris, une suspension et un report de 6 mois du commencement des travaux, c'est ça ?
Pas exactement. C'est-à-dire que la forêt ne serait pas détruite, hein. Avant 6 mois,
pardon.
D'accord. De toute façon, avant les travaux, il faut déjà, comme d'habitude, qu'ils fassent l'infrastructure routière. Pour faire l'infrastructure routière, il faut qu'ils détruisent effectivement cette forêt. Je me rappelle plus, elle portait un nom très particulier.
La forêt de Roanne.
C'est ça, la forêt de Roanne. Donc, pendant 6 mois, il n'y aura pas de défrichement exactement. Et ce défrichement, concerne effectivement cette forêt. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais surtout cette forêt.
Et j'ai cru comprendre aussi un collège de personnalités qui allait être nommé pour pouvoir assurer une médiation, c'est ça ?
Je ne crois pas. Je crois que c'est le président du truc du débat public. Ça, c'est un truc très institutionnel qui est utilisé quand on fait des trucs par rapport au nucléaire, les poubelles nucléaires, etc. Chaque fois, il y a un grand débat public et il y a une commission du débat public, et je pense que c'est celle-là qui doit négocier, enfin qui doit essayer de faire des choses, essayer de calmer les esprits en disant que, ben, en fait, vous avez tort, les opposants, voilà.
Oui, c'est ça, vous avez tort, les opposants, parce que de toute façon, au départ, ce qui a été comique quand même, moi j'étais pas sur place, hein, mais j'écoutais la télé, la radio, etc. Au départ, le pouvoir lance cette baudruche, quoi, ce truc où les gens comprennent que ce qu'ils voudront, c'est-à-dire ce qui est bien, c'est que la CIPA tout de suite réagit en disant mais il y a pas de négociation possible, toutes les forces de l'ordre doivent partir déjà, c'est le premier point. Et deuxième point, évidemment, faut arrêter cette construction de l'aéroport. Je crois que là-dessus, la CIPA et tous ceux qui luttent là-bas ne se sont pas fait piéger par ce truc-là. Bien évidemment, aussitôt, on a vu des communiqués, des Verts, des responsables du Parti Vert, qui sont réjouis de l'avancée qui était donnée par le pouvoir. Ensuite, il y a eu réaction de la droite, même si la droite est dans la merde actuellement. La droite a commencé à dire à Ayrault, vous reculez. Et de ce fait, Ayrault, il a été obligé de dire, mais non, recule pas, de toute façon, l'aéroport se fera.
Moi, ce que j'ai entendu, par contre, c'est que il y a une émission de radio avec Le Monde qui s'appelle Tous Politiques le dimanche en fin d'après-midi. Et moi, j'ai lu le compte-rendu dans la presse. Il y a Nadjad Vallaud-Belkacem qui était l'invité. La commission en question, de toute façon, n'est qu'une mission d'information. D'après ce qu'elle disait, il n'est pas du tout question de négocier ou de remettre en cause le projet, mais uniquement d'informer pour expliquer aux gens qu'ils n'ont rien compris et que ce n'est pas la peine de s'opposer à l'aéroport. Quoi.
Voilà. Bah, de toute façon, il est clair que il était nécessaire qu'il reprenne la main. Quand je dis il, c'est Jean-Marc Ayrault ou le gouvernement, si vous préférez, que le gouvernement reprenne la main et quand même essaye de faire redescendre un peu la tension. Parce que je vous ai pas raconté la semaine, mais toute la semaine, il y a de plus en plus de monde qui sont arrivés sur la zone, et samedi après-midi, il y a une manifestation à Nantes, qui est la manifestation mensuelle convoquée à l'initiative du collectif nantais contre l'aéroport, qui propose aux Nantais de se mobiliser contre l'aéroport, mais aussi contre les projets de métropole qu'il y a à Nantes. C'est le fameux slogan « contre l'aéroport en ce monde ». Et cette manifestation, elle a réuni près de 10 000 personnes. Répétons-le encore une fois, sans drapeau ni parti politique. Spécial dédicace d'ailleurs aux trois abrutis de la CNT qui n'ont pas voulu ranger leur banderole, c'est pas grave.
ça y est, il y a toujours les nanars de service.
Ah ouais, non
camp,
mais c'est insupportable. Cette manifestation, elle était vraiment, comment dirais-je, forte, puissante, populaire, et elle s'est réunie devant la préfecture. Elle a refusé de se disperser pendant très 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 longtemps. On est passé à deux doigts des incidents, mais il y avait une espèce de colère froide et de colère triste où les CRS ont essayé de disperser les deux trois énervés qui essayaient de rentrer dans le jardin de préfecture, dispersés à la lance à eau.
Ouais.
Et les gens regardaient ça, insultaient les CRS bien évidemment, mais ne passaient pas, je dirais, à quelque chose de plus violent pour éviter de se faire évidemment le rapport de force militaire était pas là quoi. Mais il y avait vraiment une colère froide et la non envie de se disperser et d'afficher quelque chose. Donc il y a vraiment quelque chose qui était en train de se passer à Nantes, hein, parce que la plupart des gens sont des Nantais. J'en veux pour preuve également la diversité des slogans qui étaient criés, hurlés. Donc une manifestation très très dynamique, avec notamment un slogan repris par vraiment beaucoup de monde, Vinci dégage, résistance et sabotage, qui sont quand même des choses qui sont pas, je dirais, des mots d'ordre qui sont pas habituels, en tous les cas des mots d'ordre qui sont offensifs. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut relever et qui est quand même extrêmement positif dans ce qui s'est passé cette semaine à Nantes. Et puis, de toute façon, depuis les trois derniers mois, et c'est quelque part une victoire aussi de ce mouvement social que lundi dernier on qualifiait d'autonome, en tous les cas en dehors des institutions, et c'est que pour la première fois depuis longtemps, en tous les cas pour moi pour la première fois, il y a une vraie, un vrai respect de la diversité des tactiques. C'est-à-dire qu'on est différent, on sait pourquoi on se bat, mais en tous les cas, on ne va pas se battre entre nous. Et vous le savez, hein, ça a été de nombreuses fois, à chaque fois qu'il y a eu des phénomènes ou des gens qui décidaient d'être offensifs par rapport à des situations, en gros, se mettre, se coltiner avec les flics, il faut être clair, il y a toujours eu des brigades Krishna ou des gens pour dire que ça desservait le mouvement social et patati et gna gna gna, etc., machin. Là, il n'y a pas du tout de ça. C'est-à-dire que si les gens ont envie de se battre contre les flics, ils se battent contre les flics. Si les gens ont envie d'être à poil en montant dans les arbres, ils peuvent aussi le faire. Mais tu peux aussi t'asseoir devant la police, avoir des modes de résistance passive et te retrouver tous ensemble, dans la rue, pour pouvoir dire ta colère et pour pouvoir, affirmer ta détermination par rapport à ce projet, quoi. Et vraiment, samedi, c'était vraiment chouette cette manif, et j'espère que les camarades d'une CNCA vont pouvoir cultiver la dynamique qu'il y a à Nantes, parce que si Nantes entre dans la danse en tant que ville, là, ça va prendre encore une autre ampleur. Jeudi, il y a eu le pont de Nantes, le pont de Cheviré, qui est un énorme pont qui passe par-dessus la Loire. La Loire, elle n'est pas franchissable partout. Il n'y a pas beaucoup de ponts à Nantes, donc c'est assez facile de foutre le bordel. Il y a le pont de Cheviré qui a été bloqué avec seulement 4 tracteurs. Il y a le pont de Saint-Nazaire aussi qui a été bloqué. Il y a eu des tas et des tas de réactions un peu partout en Bretagne et en Loire-Atlantique suite à l'arrivée des flics sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Et puis il y a eu vendredi, samedi, dimanche tout un tas de rassemblements de solidarité un peu partout en France, la plupart de manière spontanée pour protester contre l'arrivée de la police. C'est vraiment un phénomène de sympathie. Et puis des gens qui étaient venus samedi 17 novembre à Nantes, qui sont repartis, il y en a qui sont pas repartis, mais il y en a d'autres qui sont repartis et qui ont décidé de créer du soutien là où ils habitent. Et d'ailleurs, le 15 et le 16 décembre, il va y avoir une réunion
des comités.
De tous ces collectifs, comités, même parfois individus isolés locaux, à Notre-Dame-des-Landes, pour essayer de voir comment on pourrait fonctionner ensemble et qu'est-ce qu'on pourrait faire, avec tout de suite, dans la réunion préparatoire à cette réunion, l'envie de dire que, bien sûr, il s'agit d'affirmer une solidarité concrète et réelle avec les gens de Notre-Dame-des-Landes et les gens qui habitent là et les gens qui habitent sur la ZAD et les paysans qui travaillent là, mais que ce projet C'est aussi une vision du monde où des acteurs, l'État, Vinci, les multinationales, etc., les aménageurs et les urbanistes, nous empoisonnent et nous détruisent nos vies au quotidien, et que partout, ces grands projets ou ces grands travaux inutiles, on peut les décliner sous quelque forme que ça soit. Alors évidemment, c'est la LGV à Bayonne, c'est la gare enterrée à Stuttgart, c'est le TGV Lyon-Turin. Et ben, chez nous, ici, à Reims, c'est comment la ville s'est transformée depuis 10 ans avec le prétexte du TGV, encore une fois, et de ce tramway. Alors certes, effectivement, ça nous fait des belles... J'ai vu que vous aviez des grandes roues maintenant, c'est bien. Vous pouvez partout ailleurs des choses qu'on voit concrètement et réellement comment la dépossession de nos vies elle est à l'œuvre, que ce soit la gauche ou la droite, mais que la dépossession de nos vies elle est à l'œuvre au quotidien, quoi.
Voilà. Alors je crois que par rapport à ce qui s'est passé là-bas, il y a quand même des choses à dire concernant la violence des flics, puisque il y a une centaine de blessés, dont 30 graves, et on en retrouve les mêmes blessés graves à cause des grenades assourdissantes. Alors normalement, ces grenades assourdissantes normalement doivent être lancées en l'air pour qu'il n'y ait pas de retombées graves, et quand elles sont pas lancées en l'air, pour retomber sur des manifestants, quand elles sont lancées finalement comme ça, quoi, à tir tendu, eh bien, quand elles éclatent à proximité des manifestants, encore plus si c'est un manifestant les reçoit, ça fait pénétrer des petits morceaux de plastique et de ferraille dans le corps des gens, et c'est ainsi qu'il y a une trentaine de personnes qui sont actuellement criblées de ces petites portions
des plots. Il y a eu une montée de la violence policière au cours de la semaine. Soit je pense que il y a les gendarmes qui sont là et qui commencent à avoir ras-le-bol en plus.
Ouais, j'en parlais tout à l'heure.
Un petit moment là, qui sont là, ça commence à craquer. Les conditions sont vraiment assez hardes. Ils en prennent plein la gueule. D'ailleurs, les affrontements dans la campagne et les affrontements dans la ville, c'est pas pareil. Ça se voit bien, quoi. En plus, il y a des gens qui sont extrêmement déterminés. Régulièrement, ils se prennent pas mal de trucs sur la tronche, quoi. Même des choses assez hardes. Je pense à quelqu'un qui s'est reçu il y a un moment dans la matinée où il y a eu de la chaux projetée sur les gendarmes, donc ça brûle, ça, quand même, un peu, ça pique. Et donc il y a eu une montée de la violence, avec certainement des instructions aussi en haut lieu pour pouvoir augmenter la pression et essayer de voir de créer des divisions et puis de terroriser les gens. Alors il y a trois types d'armes qui sont utilisées principalement, donc des lacrymogènes fort, avec évidemment comme d'habitude des tirs tendus de lacrymogènes, quoi, hein. Donc ce sont des énormes douilles qui ensuite explosent par terre et le petit bout part et déclenche le gaz, quoi. Donc là il y a déjà eu des blessés par rapport à ça. Il y a eu des coups de flashball et de gomme-cogne. Alors de manière un peu plus rare, un peu moins que d'habitude, hein, ces fois-ci, mais bon, toujours quand même, donc c'est la grosse balle de caoutchouc, hein, qui est tirée. Il y a eu donc ces grenades assourdissantes qui donc font du bruit, sifflent, explosent à, je crois que ça doit être 130 décibels, et il y a des grenades, alors que eux ils appellent des grenades de dégagement. C'est censé être utilisé dans des conditions particulières, et c'est ce que tu décris. Ce sont des grenades à l'intérieur duquel sont disposées circulairement une centaine de petits plots en plastique,
c'est ça, ouais.
Et qui explosent, qui sont censés donc disperser les gens, mais qui, comme elles explosent avec une force très importante et vu leur petitesse, elles rentrent dans le corps des gens, et elles sont très difficilement extractibles. Donc y a des gens, alors effectivement, d'une part, comme je te l'ai dit, il y a différents niveaux d'engagement des gens. Il y a des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, ou qui ne pensent pas que les flics puissent développer une agressivité ou vraiment leur nuire physiquement. Je pense notamment à un groupe de gens qui s'est fait défoncer la gueule, qui était à poil, dans les bois. Alors le symbole est très 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 beau et très très fort, bien sûr, mais ils se sont vraiment fait éclater la tronche par les gendarmes qui, quelque part, se sont vengés sur eux de ce qu'ils avaient pris et de ceux qui se battaient vraiment au cours de la journée. Et donc, il y a des gens qui ont été à proximité de ces grenades et qui en effet, en ont pris plein la tronche, quoi. Alors, il y a une trentaine de personnes qui auraient été touchées par ces éclats. Il y a une centaine de personnes qui sont aujourd'hui blessées. Alors, en 4 jours, quand même, ça fait pas mal. Et puis il y a une douzaine de personnes qui sont portées disparues, dans le sens où, comme c'est un bocage avec les bois, la nuit, la dispersion des gens, etc., il y a des gens qui ont été interpellés et dont on n'a pas de nouvelles. Et donc il y a une douzaine de personnes qui manquent à l'appel. Pas s'inquiéter, hein, bien sûr, mais ça va être vachement important quand même de pas que les gens se retrouvent isolés. Et là, je pense que ça va être aussi un moment de ce mouvement, c'est-à-dire si effectivement il y a ce report de 6 mois des travaux de bûcheronnage dans la forêt de Roanne, il va quand même y avoir des gens. Il y a des gens qui sont fait interpeller, hein, il y en a une quarantaine, je crois. Je sais pas combien il y a de personnes qui sont retenues ou combien il y a de personnes qui sont...
Il y a déjà une personne qui est passée en flagrant délit.
À Saint-Nazaire,
ouais.
C'était lundi.
C'était aujourd'hui. Il s'est pris un mois avec sursis et surtout 2 ans d'interdiction de séjour dans les quatre communes concernées par l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
D'accord, ok. C'est pas grand chose, hein. Moi, on lui reprochait quoi?
Participation aux manifestations interdites, etc.
Oui, enfin, c'est surtout par rapport d'avoir été violent envers les gendarmes, je crois.
Oh, ben ça va.
C'est un mois avec sursis pour ça.
Et vous savez s'il y a eu du soutien ou s'il y avait des gens qui étaient présents?
Oui, apparemment, il y a beaucoup de monde.
D'accord. Parce que là aussi, ça va être très, très important. Ça peut être une manière de tuer ou d'effilocher le mouvement. C'est-à-dire que si lors de la répression judiciaire, lors de la répression, on va dire la première répression, la première partie, la répression physique et les arrestations, il faut qu'il y ait de la solidarité. Mais après la répression judiciaire, ça peut continuer. Et effectivement, si tout le monde, sans distinction d'engagement, va au procès, ça va être vachement important encore et ça va être un beau message politique de porter, de dire que ce mouvement, il est certes pluriel, varié, mais en tous les cas, c'est le mouvement qui est solidaire de ses membres, quoi, et tout le monde est solidaire. De ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, quoi.
Alors, si vous voulez avoir les infos, il y a toujours le site ZAD. Vous avez tous les 5 minutes, hein, encore aujourd'hui, des tas d'informations sur ce qui se passe sur le terrain. Ils sont vraiment bien informés de ce qui se passe, hein. Ça marche très bien. Il y a, je crois, des centaines de milliers de personnes qui vont se voir sur ce site.
On parlait de 80 000 connexions quotidiennes,
c'est ça.
Avec des pics à 120 000. Et pour la manifestation du samedi 17 novembre, on est monté jusqu'à 180 000 visites, ce qui a fait exploser le site d'ailleurs. C'est
énorme.
Alors il faudrait qu'on discute déjà justement de comment ça se fait que ce mouvement a autant de sympathie. Hein.
Oui, mais les informations qui sont données aujourd'hui, entre autres de ce qu'on a dit, il y a un truc il y a 3 trucs intéressants, importants, c'est que vous avez vu des trucs de chantier. Il y a eu une entreprise qui avait apparemment des trucs de chantier qui lui appartenaient, qui étaient sur le terrain. L'entreprise en question a eu très peur parce qu'elle a reçu des centaines de mails, des lettres, etc., d'insultes en disant que c'était des salauds. Le patron de cette boîte a pris contact avec les gens de la ZAD en disant non, tous ces trucs ne m'appartiennent plus. Je les ai revendus il y a très peu de temps. Donc, c'est pas la peine de vous attaquer à mon entreprise, je suis pour rien du tout. Enfin, ça prouve quand même que la lutte est complètement ancrée dans là-bas, quoi, c'est clair, ça. Il y a eu un truc marrant, c'est ACRS a démissionné aujourd'hui, puisqu'il est absolument opposé maintenant à l'aéroport, et il a tout lâché.
Ouais, j'ai entendu ça. C'était un petit peu une rumeur qui courait le long du week-end en disant que on allait en faire partir quelques-uns. Mais bon, ouais.
Il y en a un qui l'aurait fait. Bon, d'accord. Voilà. Mais
pour vous parler du moral parmi les gendarmes mobiles, vous savez que les gendarmes mobiles de Reims sont à Notre-Dame-des-Landes. J'ai vu tout à l'heure un astit qui se trouve dans, à côté, donc dans l'école à côté de la gendarmerie mobile de Reims. Et apparemment, le moral dans la gendarmerie et parmi leurs épouses n'est pas bon. Elles, ce qu'elles attendent impatiemment, c'est leur retour à la caserne.
D'accord. Bon, c'est important quand même de saboter l'ennemi, hein. Toujours, hein, je dirais. Et puis de faire en sorte qu'il y ait certaines personnes qui retournent leur veste. Parce que bon, je vais te dire, bon, on en est là. Et puis le dernier point qui est inquiétant cette fois-ci, c'est qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés à cause de flics. Ils se sont déguisés en autonome avec masque, etc. Enfin pas masque, capuche, etc. Qui après aussitôt sont passés devant, étaient en fait des flics et ont fait arrêter une dizaine de personnes.
D'accord. Voilà,
c'était aujourd'hui sur le site de la ZAD. En plus de ce que tu as raconté tout à l'heure, et en particulier les 40 tracteurs.
Je ne savais pas cette information-là.
Voilà.
Donc, moi, je vais rajouter une quatrième, c'est qu'à la radio cet après-midi, je ne sais pas si c'est la préfecture ou si c'est Valls, mais le pouvoir policier propose un moratoire sur les expulsions à condition qu'il n'y ait plus de nouvelles constructions sur le site. Ça, c'était l'information de cet après-midi.
Non, c'est pas de construction, c'est de barricade.
De barricade.
Ah, barricade.
La barricade est une construction. Tout à fait.
Et toutes les constructions ne sont pas des barricades. Mais bon, de toute façon, je pense que le mouvement va pour but de rester là. Donc, ils font tout. On fera tout pour qu'il y ait des reconstructions constamment. D'ailleurs, c'est évident.
De toute façon, ce qui avait été discuté, pas de manière formelle, mais informelle, c'est que c'est le mouvement qui est à l'initiative. Donc le mouvement, lui, il peut tenir. Évidemment, ça va être dur. C'est un combat, c'est une lutte, c'est une guerre. Ça va être difficile. Mais il y a des gens qui arrivent en permanence. Donc ceux qui partent ou ceux qui abandonnent, qui sont blessés ou qui n'en peuvent plus, ils sont remplacés par des nouveaux engagements. Donc on le voit bien qu'aujourd'hui la balle elle est dans notre camp. Elle n'est pas dans le camp du pouvoir. Et si aujourd'hui il commence à lâcher ça, alors il faut lui prendre tout ça. Et effectivement, lui dire, de toute façon, il n'y aura pas de négociation tant qu'il y aura les flics.
Ouais.
Et alors, si les flics se barrent, on fait ce qu'on veut.
Alors, au niveau d'un reportage télévisuel que j'ai vu samedi soir, ça se passait au Larzac. Il se fait là-bas un comité et une cinquantaine de gens du Larzac montent en tracteur à Notre-Dame-des-Landes. Là aussi, c'est du symbolique. Bon, tout est symbolique, mais bon, c'est un symbolique important. Et là, la femme qui était interviewée était très claire là-dessus. Quoi. Elle était sur les mêmes positions que la Confédération paysanne. Ça, c'était évident pour eux. Pour eux, c'est important ce qui se passe là, puisque... Alors, en plus, ils disaient des choses importantes en disant, mais il faut pas oublier que nous, ça a duré des années, et qu'à Notre-Dame-des-Landes, pour gagner, il va falloir aller en long cours, quoi. Il va falloir se battre pendant des mois et des mois.
On peut rappeler, hein, au Larzac, 98% des terres avaient été préemptées, avaient été quasi achetées par l'armée, quoi.
Bien sûr.
Donc il restait vraiment 3 pelés et 2 tondus qui n'avaient pas vendu. C'est parce qu'il y a eu justement cette politisation et cet engouffrement d'autres choses à l'intérieur du mouvement du Larzac que ça a pu s'amplifier et gagner. Alors par contre, et ça pourra nous donner l'occasion de faire une deuxième partie, il faudra pas qu'il y ait les mêmes illusions et qu'il y ait les mêmes arnaques, c'est-à-dire que le Larzac, il a quand même débouché sur la gauche au pouvoir et ça a été une des concessions de la gauche au pouvoir. Enfin, ça fait partie de la stratégie de Mitterrand pour arriver au pouvoir. Mais donc, il faudra pas que ce soit la même chose et que ce mouvement-là soit la possibilité pour les Verts, puisqu'il faut les citer, Europe Écologie des Verts, de s'en tirer avec les honneurs. Mais visiblement, quand on voit comment ça se passe sur le terrain, c'est pas gagné pour eux, quoi.
C'est moi qu'on peut se dire. Alors on va peut-être passer quelque chose, soit un son. T'as un son, je pense.
Bah ouais, il y a un petit peu de son de la manifestation du 17. Si ça vous intéresse, vous pouvez le mettre.
Bien sûr. La manif des occupations, on a beaucoup entendu que dans les grands médias beaucoup de choses, comme c'était organisé, même appelé par Europe Écologie Les Verts. En fait, juste pour rappeler rapidement l'histoire de cette manif, c'est une manif qui a été initiée il y a plus d'un an et l'appel a été lancé par des occupants de la ZAD, des squatteurs et des collectifs solidaires d'un peu partout en France pour dire bon, ben, on n'est pas une armée, nous, quand ils viendront nous expulser, on ne pourra pas faire grand-chose, mais on appelle tout le monde à nous rejoindre pour réoccuper un mois après. Et c'est de là qu'à part cette manif et c'est là qu'on en est aujourd'hui. Donc on n'est pas dans des logiques de parti, mais on... Cette manif, c'est pas simplement un moment ponctuel, un événement où on va se compter et savoir combien on est. C'est l'enjeu de se construire un lieu de lutte, de construire pas seulement symboliquement, de reprendre le terrain et de pouvoir organiser sur le long terme le mouvement de résistance sur le terrain et de construire un rapport de force qui fasse plier. Ouais, voilà, on appelle à ce que les gens restent le week-end ou plus s'ils peuvent, que les gens viennent après se réapproprier ce lieu, qui doit pas être le lieu de simplement une frange de l'occupation, qui va vraiment être un lieu appropriable et où tout le monde puisse se sentir bien. Du coup, c'est vraiment un lieu d'organisation de la lutte, c'est pas un lieu d'habitation pour venir vivre au quotidien. Il y aura d'autres endroits pour ça, la zone elle est grande, mais ce lieu-là c'est un lieu pour tout le monde, pour organiser la lutte et se rencontrer et continuer. Enfin, les dernières semaines, vous avez suivi l'expulsion massive d'une bonne partie de la ZAD, mais il y a encore des gens sur le terrain qui résistent, il y a encore des lieux et surtout il y a un mouvement, la lutte semble jamais avoir été aussi forte en fait et la résistance là... Bah, elle semble jamais avoir été aussi forte en fait. C'est beaucoup de soutien de beaucoup partout en France, de beaucoup de personnes d'horizons divers et ça fait plaisir. C'est plus qu'un aéroport en fait cette histoire, c'est peut-être aussi pour ça que ça rassemble et que ça fédère tellement. C'est bien sûr une question écologique mais pas seulement. C'est pas seulement une histoire de changement climatique, que les avions ça pollue ou que voilà on se fait archaïque contre le progrès comme on l'entend parfois. En fait c'est une logique qui touche tout le monde partout, à la ville ou à la campagne, une logique d'aménagement du territoire où il y a quelques dirigeants qui vont décider d'aménager, de rationaliser l'espace public comme ils disent, pour que ça soit cohérent, c'est-à-dire dans une logique de profit et une logique de rentabilité, et surtout pour que ça soit contrôlable. En fait, on n'arrête pas d'aménager l'espace, et qu'est-ce que ça fait en conséquence? Ça brise des communautés, ça isole des individus, et ça fait des individus plus dépendants au marché du travail, plus dépendants au marché en général. Et c'est ça aussi qu'on critique, c'est cette logique d'aménagement du territoire où il y a quelques personnes qui décident à une grande échelle, insaisissable par les individus à la base qu'on est nous. C'est organisé au-dessus de nos têtes et on n'a aucune prise sur ça. Et cette logique, c'est bien plus que juste une histoire d'aéroport, c'est vraiment à l'œuvre partout. Et une réflexion, je dirais, sur la métropole, qu'aujourd'hui, les métropoles, c'est plus pensé vraiment comme des lieux qui doivent être bon vivre pour les habitants. Ou alors, s'il fait bon vivre pour les habitants, c'est un argument de vente pour le marché des métropoles au niveau mondial, qui doivent être attractives, qui doivent être concurrentes. Aujourd'hui, Nantes, c'est une marque. C'est une marque déposée et en fait qu'il y ait de la culture ou que ça soit bien pour rouler à vélo, c'est pas pour faire plaisir aux habitants, c'est pour pouvoir attirer ce qu'ils appellent les classes créatives, et c'est pour pouvoir moder la population et amener la population plus bourgeoise en fait, et écarter les populations qui sont plus pauvres à la périphérie, comme il se passe souvent, on gentrifie les quartiers et tout ça, ça rentre dans une logique de concurrence, de métropole entre qui veulent être attractives. Cet aéroport, c'est pour l'attractivité du territoire, c'est pour la ville de Nantes, c'est ce qui est clairement dit dans les discours.
Et vous êtes créatif pourtant, vous, dans la ZAD, je trouve.
Non, mais ça, c'est un joli retournement de langage, je trouve, d'appeler les classes créatives ce qu'on appelait autrefois les exploiteurs et les exploités, ou les oppresseurs et les opprimés.
Yeah, I just just looked around and he was gone. Has anybody here seen my old friend John? Can you tell me where he's gone? You know, he freed a lot of people, but it seems the good die young, yeah. Just look around and he was gone. Oh yeah. Has anybody here seen my old friend Martin? Can you tell me where? But it seems a good die young, yeah. I just looked around, he was gone.
Continue sur Notre-Dame-des-Landes.
Bien sûr.
Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment on pourrait? Moi, c'est une question que je pose, puisque malheureusement, j'ai pas eu trop de vues de l'extérieur ni de distanciation. Mais il y a vraiment un courant de sympathie qui émerge de cette lutte et qui donc implique de l'engagement et de la solidarité de la part de l'extérieur. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce mouvement de sympathie, quoi?
Je pense qu'il y a déjà le truc qui est important, c'est les histoires des projets inutiles, qui ne sont pas inutiles pour Capital évidemment, mais qui a fait comprendre à des tas de gens que vraiment on se fout de nous, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une situation normalement, paraît-il, de crise, enfin paraît-il si, il y a une réelle crise, et puis il y a les grands travaux qui nous arrivent, qui va encore nous mettre dans la merde au niveau financier, c'est ce que pensent les gens, hein. Alors que le capital, lui, pense le contraire. C'est toujours la fuite en avant pour le capital, hein. Ils vont essayer de se refaire une santé là-dessus. Voilà. Alors donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que on est dans une période où il n'y a plus grand lutte. On a quand même raté beaucoup de choses ces dernières années, en particulier toutes les luttes sur les retraites, tout ça. Qui fait que là il y a eu à mon avis il y a l'occasion qu'un mouvement réelle sociale renaisse sur... Alors, on ne sait jamais quand un mouvement social naît, jamais, surtout en France d'ailleurs. Mais il n'empêche que là, c'est vraiment bien parti, parce que quand on regarde un petit peu les comités de soutien qui se créent, il y en a partout en France, hein. Il n'y en a pas un, d'accord, mais bon, tu regardes à Saint-Afrique, tu regardes toutes les villes, même villages.
Tu vas en avoir un dans l'Aisne.
Voilà, donc bon, donc c'est assez important. Et il y a aussi le monde paysan, c'est important, puisque bon, là, il y a plus de conscience qu'il y a moins en moins de terres, il y aura donc de moins en moins de paysans, et toute la paysannerie qui était basée sur justement contre la production à outrance, contre les gens qui font de la betterave sur des hectares, du maïs, etc., mais qui font des cultures saines, pas forcément bio, hein, bien sûr bio, mais il y a aussi des gens qui font des cultures tout à fait.
Ça s'appelle raisonner.
Raisonner, voilà, qui font que bon, c'est de plus en plus remis en cause et ça mobilise effectivement des gens, quoi. Et alors en plus, alors se pose le problème aussi, et ça c'est vrai dans toute lutte, c'est la composition sociale de ceux qui se mobilisent. Là, c'est quand même important. C'est-à-dire que, en dehors des paysans, quelle est la composition sociale? Je pense que ça doit être multiple.
Alors, on peut pas... en ce qui concerne les paysans là-haut, c'est quand même un type de paysannerie particulier. C'est pas les gros exploiteurs et les gros cultivateurs qu'on peut avoir, nous, ici. Hein.
Ouais.
La moyenne de l'exploitation en Loire-Atlantique, elle doit être de 10 hectares, je crois. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Ouais. C'est vraiment ridicule comparé aux grandes exploitations. Alors après, pour les gens qui viennent en solidarité, moi je peux pas, c'est pas marqué sur la gueule en général la classe sociale, mais c'est évident que c'est pas des bobos qui viennent se promener dans le bocage.
C'est sûr.
Notamment, on le voit dans la volonté de participation réelle et concrète aux activités de solidarité qui sont proposées. Et moi je crois que c'est aussi pour la composition sociale, Nantes est une ville où il y a une bourgeoisie évidemment, mais où il y a encore un vieux fond populaire qui bosse à Nantes ou ailleurs à côté dans la périphérie et qui a une certaine idée de sa relation à son territoire et à sa ville, quoi, puisque oui. Quand on parle de l'aéroport, on oublie souvent le projet de Nantes Métropole. Nantes a été déclarée capitale européenne de l'écologie, capitale verte pour 2013, et donc ça implique plein de choses. Nantes est une ville qui a profondément changé au cours de ces 10 dernières années, et les Nantais sont parfaitement conscients que l'aéroport est héros, évidemment la mafia est héros, puisque héros, il est élu de Nantes depuis 89, mais avant il était maire de Saint-Herblain, donc une commune juste à côté. C'est vraiment toute une mafia et tout un système aussi qui se compose. Et moi je pense qu'il y a aussi ça là-dedans, dans la sympathie qu'il y a autour du mouvement de Notre-Dame-des-Landes. C'est que quelque part, ce mouvement, il permet une contestation, pour le coup raisonnée. Alors peut-être pas raisonnable, mais en tous les cas raisonnée. C'est-à-dire que on a le droit, on le sait, pardon, je reviens un petit peu avant. On sait que Hollande a été élu sur un anti-sarkozisme mou et vide, en fait.
Hein, un quiproquo.
Un quiproquo, tu dis, toi. Non, parce que les gens savaient quand même ce qu'ils pouvaient avoir. Mais en tous les cas, personne n'avait absolument pas confiance en lui. Mais c'était délicat quand même de critiquer Hollande, parce que sinon ça voulait dire que t'étais à droite. Enfin bon, c'était toujours ce piège des élections et encore plus de ce bipartisme aujourd'hui où finalement... voilà quoi, tu votes pas pour, tu votes de moins en moins, tu votes contre, mais tu votes pas pour, enfin ça n'a plus de sens du tout quoi. Et donc là, pour une fois, on a quelque chose dans lequel on peut s'identifier, un élément, dirais identitaire, un truc qu'on rejoue du collectif, autorisé.
On rejoue du collectif, ça c'est important, c'est ça qui est... qui, à mon avis, doit intéresser vachement les gens. Ça me fait penser au mouvement, ce qui a eu lieu, surtout en Espagne, mais aussi dans d'autres pays, concernant, alors je me rappelle plus du terme, là,
indignés.
Les indignés. C'est un peu, bon, alors c'est un peu, ça peut-être. Va dans la lignée. Et en plus, ce qui est important, c'est que tu retrouves vachement de jeunes qui ne se sont pas exprimés socialement et depuis longtemps, depuis 2006, je crois, 2006-2007, les dernières luttes de jeunes. Donc là,
CPE, c'est ça.
Donc là, si tu veux, c'est pas le même terrain, c'est pas le terrain de l'école, mais c'est le terrain quand même d'un devenir quelque part pour eux, évidemment. Donc il y a certainement des sacrées prises de conscience aujourd'hui de ce que c'est que le bétonnage, parce que bon, cette histoire d'aéroport, c'est une histoire d'aménagement du territoire, c'est pas autre chose, hein. Bon, et par le capital, par Vinci, et avec des responsables de politiques qui soient de gauche ou de droite, puisque de toute façon les deux sont d'accord là-dessus. Donc voilà, je pense que ça doit, dans certaines têtes, ça doit bouger. Puis en plus, on est en Bretagne, faut pas l'oublier.
Et oui, il y a le vieux fond contestataire breton, rappelons le Carnet, le Pèlerin, Plogoff,
tout ça,
etc., etc. Hein, donc, il y a
ça
vraiment
passe,
aussi
ça se passe histoire. Pas, ouais, ça se passe pas n'importe où. Bah,
ouais, tout à fait. Il y a effectivement une histoire, quoi. Et puis pour l'extérieur, on a la possibilité là pour venir dans cette manifestation, parce qu'il y a des gens quand même qui ont fait des bornes hein, pour venir à la manifestation du 17 novembre. Il y a la possibilité de venir, de se projeter dans une lutte où on rejoue du collectif, donc on l'a dit, et sans perdre une journée de salaire puisque c'est le week-end, sans avoir à risquer des choses de soi-même. C'est effectivement quelque chose, une lutte par procuration. On a beaucoup parlé de grève par procuration l'année dernière, ou d'occupation par procuration, quand il y avait les occupants. Passion des raffineries et les grèves des cheminots, et ben là on a une lutte par procuration, même si ce qui moi m'apparaît intéressant c'est et différent, c'est la volonté et l'affirmation de l'autonomie de ce mouvement. C'est-à-dire j'ai rarement vu des manifs aussi importantes sans marquage politique.
Ouais.
Avec en plus ces gens qui gueulent,
c'est là que tu perçois que c'est un mouvement. C'est pas la CGT derrière la CFDT après le Parti communiste, etc. quoi.
C'est ça, ouais. C'est ça, c'est clair. Et alors ces petits ingrédients qui font qu'en plus les gens reprennent de la confiance et sont vachement heureux d'être là. On a la semaine dernière, t'as vu avec quel enthousiasme on parlait de notre week-end. C'est vrai qu'on avait, on était un peu sur un petit nuage. C'était normal. Malheureusement, on est un peu redescendu là, mais on était un peu sur un petit nuage parce qu'on vit des trucs super à cadence effrénée, quoi. Forcément, quand tu partages de l'intimité comme ça avec des gens, la conscience elle va vite et la connaissance et la vie elle est bien, quoi. Et du coup, comme les gens vivent des choses ensemble, ça donne envie de continuer, quoi. Et alors si ces deux ingrédients là autonomie et mouvement pouvaient s'élargir et être redistribués dans les différents collectifs, et si on pouvait essayer de voir ce qu'on pourrait faire ensemble, tous ensemble, ouais, il pourrait se passer des choses vraiment intéressantes.
Ouais. Alors en plus, je crois qu'il y a un truc aussi qui est important, c'est que il n'y a pas de concession au niveau des gens qui luttent, c'est-à-dire qui veulent gagner, que les revendications sont claires, il n'y aura pas d'aéroport, c'est pour ça que ce week-end, la tentative de la gauche de magouiller le mouvement, n'a absolument pas pris. Parce que les gens qui luttent là-bas sont clairs, pas d'aéroport, point barre. Et là-dessus, si tu veux, en plus, s'ils pensent concrètement, et tant que tu penses ça, c'est super bien pour la lutte, ils pensent qu'ils vont gagner. Et ils le disent, c'est quoi, nous ne lâcherons rien. Donc on va gagner comme on l'a gagné au Pèlerin, comme on l'a gagné au Carnet, comme on l'a gagné à Plogoff, comme on l'a gagné, même si c'était des luttes.
C'était le dernier slogan qui était chanté devant la préfecture.
On va gagner, c'est quand même super
slogan pour un mouvement social, quoi.
Oui, parce qu'il y a longtemps, tu t'imagines pendant les grèves qui ont eu lieu sur les retraites, personne n'aurait osé dire qu'on allait gagner, tu vois.
Ouais, on disait à la limite 39 ans et demi. Mais ouais, et c'est effectivement vachement bien. Et c'est là que c'est super parce que quand tu sais que tu vas gagner, parce que quand tu vois l'attitude du camp en face, tu dis c'est pitoyable quoi, parce que quand même le mec héros la semaine dernière il disait niette quoi, l'aéroport se fera, c'est un kyste, c'est juste une question de jour, ça va partir et puis de toute façon c'est un truc de minorité violente et puis voilà c'est pas grave. Bon alors là aujourd'hui on nous parle de et de comment dire de d'une commission là machin et on voit bien à quel point le pouvoir est totalement totalement né dans son caca quoi, parce que sa seule solution c'est d'utiliser les verts.
Oui, bah oui.
Et par conséquent,
sauf que les verts n'ont pas le pouvoir sur la lutte.
Non, ils n'ont pas le pouvoir sur la lutte, donc c'est râpé. Alors comment ils vont faire pour leur avoir? Est-ce qu'ils vont le faire d'ailleurs? Ou alors il peut y avoir. Donc c'est pour ça que cette lutte, elle a quand même des possibilités qui la dépassent et qui sont vraiment 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 subversives.
Alors justement, j'ai un truc qui est terrible du 14 septembre dernier. Donc 14 septembre, c'était bien avant tous les événements qui ont eu lieu. Un certain Jean-Philippe Magnien, je crois,
porte-parole.
Porte-parole des Verts, qui a déclaré au journal Presse Océan, en parlant des occupants, donc de la ZAD, c'est compliqué, on est démunis, ces ultras sont totalement autonomes, on ne sait pas comment les virer. Voilà, donc on a compris quoi, je veux dire, on a compris que la mission des Verts est... par le pouvoir était bien celle-là.
Le mieux c'est quand même le maire de Notre-Dame-des-Landes hein, qui alors est vraiment l'ordure intégrale, cadre bancaire, etc., sans étiquette bien sûr, jamais, qui a déclaré, qui déclare contre l'aéroport quoi, hein, mais le pauvre homme il a pas tout compris puisqu'il dit moi de toute façon je vous avais dit les squatteurs fallait les virer il y a 3 ans, maintenant c'est trop tard. Et qui se fait régulièrement insulter par ses administrés, puisque effectivement le pauvre, comme il est cadre bancaire, lui il va bosser à la banque, il se lève pas le matin pour aider les gens qui galèrent et qui se prennent l'occupation militaire au quotidien quoi.
Surtout qu'il voit les municipales approcher en 2014, donc il va faire la gueule.
Ah bah de toute façon, je pense qu'il va faire un des scores les plus bas de France, hein, vu son comportement et son positionnement par rapport à la lutte quoi. On va le répéter, hein, 15 et 16 décembre. Meeting des collectifs de soutien. Répétons-le, si à Reims il y a des gens qui ont envie de s'impliquer là-dedans et qui ont envie d'en discuter, sont bienvenus. On peut largement entrer en contact avec nous, soit par l'intermédiaire du net, soit par l'intermédiaire de la boîte postale quand elle marche,
soit par l'intermédiaire du 51 rue Landouzy aussi, hein, ouais. Qui est encore notre local.
C'est vrai.
On pourrait même, les gens peuvent venir à partir de vendredi, ils peuvent venir à 19h, ils seront accueillis, et ça pourrait peut-être faire naître un comité sur moi.
Ouais, tout à fait, oui, ça serait bien effectivement s'il y a des gens qui sont intéressés pour y aller le 15 et 16 décembre, que ça soit pas les militants politiques qui y aillent, mais que ça soit deux personnes, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant à vivre, hein. Moi je ne vous cache pas que la semaine que j'ai passée, elle reste aggravée.
Ça vaut beaucoup de choses.
Ouais. Oui, ça vaut très très largement de choses quoi. Et c'est vrai que c'est tellement bien un mouvement social qui marche et qui lutte. Ça devrait tellement être ça en fait, la vie au quotidien, que après la triste morosité quotidienne, elle en prend une sacrée claque. Hein. Voilà.
D'accord. Bon, on va peut-être rappeler que pour avoir des informations, vous tapez sur ZAD, hein, zone à défendre, et vous avez tout de suite ce fameux site qui reçoit des dizaines de milliers de visites par jour. Il y a aussi d'autres choses, je pense, qu'on peut consulter, qui existent et qui circulent actuellement, les mails qui existe, qui traîne sur Notre-Dame-des-Landes, c'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est surtout les gens dans tous les coins, quoi, qui s'expriment Et qui veulent faire quelque chose.
Oui, c'est ça, bah, qui veulent amener un coup de main à la mesure de leurs moyens, du genre, bon, ben moi, j'ai une baraque à déménager, je peux filer des meubles, des matelas, des machins, des trucs, des tentes, des bidules, des fringues, moi j'ai de la bouffe, moi j'ai ça, comment je peux faire, j'ai pas de bagnole, etc. Ça tourne. En plus, il commence à y avoir... des argumentaires et de l'information qui circulent, à savoir que bon, c'est pas effectivement c'est pas un argument primordial d'avoir une contestation argumentée et logique sur des chiffres et sur le projet en lui-même, mais ça c'est très intéressant de lire ce qui circule comme décortiquage du projet pour voir à quel point le partenariat privé c'est pas seulement une manière de monter des projets, c'est aussi une manière d'administrer les choses. Et bien évidemment l'un des plus bels exemples de ça, c'est que le préfet de région, l'ancien préfet de région, hein, avant celui qui est là, Lavernet, est aujourd'hui adjoint au directeur général de Vinci. Donc on voit les différentes passerelles qu'il peut y avoir entre les bourgeoisies locales et nationales, et puis comment justement
même si son passage chez Vinci s'est fait dans le pur respect de la déontologie, mais c'est pas le problème. La passerelle, elle existe quand même,
oui,
malgré la déontologie.
Oui, bien sûr. Non, bah, je sais pas. Moi, j'ai pas examiné les procédures de nomination, mais c'est quand même énorme, quoi. De toute façon, le slogan qui tourne là-haut, c'est que le président de région, qui s'appelle Gros Valet, n'est qu'un petit larbin de Vinci. Et c'est clair, quoi. On voit comment cette pieuvre tentaculaire s'allie, même pas pour se faire du pognon, à la limite, parce que je pense pas que Jean-Marc Ayrault, il est forcément besoin de fric. On parle pas de corruption là, on parle pas de ces choses-là, on parle pas de stratégie du complot, c'est pas ça.
On parle de projet politique.
On parle de projet politique et de projet de pouvoir. C'est-à-dire que chacun et chacune se décerne une part du gâteau, et que effectivement Ayrault, il ne peut pas ne pas comprendre et ne pas accepter que sa décision soit contestée. Il veut laisser sa trace à Nantes, sa marque à Nantes. C'est son projet, c'est sa ville, c'est son fief, hein, comme on dit. Et pour lui, ses administrés, à la limite, ils n'ont rien à dire, ils auraient juste à applaudir, quoi. Ça continue, en tous les cas, lundi, ça reconstruit, et le mot d'ordre est toujours le même, Vinci dégage, résistance et sabotage, quoi.
Ouais, et nous ne lâcherons rien, voilà. On va peut-être se quitter pour de nouvelles aventures la semaine prochaine.
Hé cousin, te souviens-tu, les émeutes en 2005 ou l'Arzac 2003, c'est toujours les mêmes qui trinquent le tiers-monde en dehors de l'Europe, forteresse, les ghettos, les précaires et des millions de détresse. Rien n'arrête les vendeurs d'armes et leurs médias de masse. Rien ne stoppe les publicitaires, ils prennent tout l'espace. Et alors que la donne écologique est au rouge, c'est les plus gros pollueurs qui repeignent tout en vert. À l'heure actuelle, ne pas mettre un rail qui dans le décor, c'est se voiler la face et fouetter ses propres frères. Car pendant qu'il rajoute le mot durable à chaque phrase, il continue de piller, de faire le coton, le gaz. Beaucoup tôt, bout à bout, tout va démonter tout ça. Pour bloquer les ports, les routes et les villas, les séguer là. Pour grimper les tours des firmes et déchirer tous leurs contrats. Réquisitionner les terres et y faire pousser la ria. Comme Henri David Thoreau, comme le mouvement Yomango. Comme l'assemblée populaire des peuples de Oaxaca. Comme les faucheurs volontaires, comme le parti Black Panther. Comme le mouvement des sans-terre, comme les anti-nucléaires. Rouya, désobéir, c'est maintenant plutôt la mode. On ne peut plus se nourrir de leurs animaux malades. Presque toutes les rivières charrient leurs pesticides. Et silence quand la France supervise un génocide.
Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal terribles, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique. fabriquer de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
C'était les rigueurs chaque semaine sur les Golé Garrigues Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Vous pouvez retrouver nos émissions sur...